Radio Canut vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Mémoire intime. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Gérard s'arrête. Nous étions en pleine campagne. J'allais vers lui et il me dit « J'ai ma chaîne qui a déraillé. » Il la remet en place difficilement. Lorsqu'il se relève, l'entre-deux jambes de son pantalon est taché de graisse. Mince alors. J'ai sorti mon mouchoir. « Attends, je vais te nettoyer. » Pris ma gourde. « Viens. » Allons derrière l'arbre. Je savais ce dont j'avais envie. Peut-être qu'il ne se rendrait pas compte du plaisir que j'aurais. Et là, en retrait de la route, je me baissais et posais mon mouchoir mouillé entre les jambes. Je frottais. Je sentais ce qu'il y avait sous le pantalon. J'allais même jusqu'à la grosseur que faisait son sexe. Je sentais tout. Je n'osais pas le regarder. Il se laissait faire. Cela dura un certain temps. La tâche était partie. Nous avons repris notre route. Moi, le feu au jour. Je ne comprenais pas pourquoi il s'était laissé faire. pour moi, c'était incompréhensible. Puis, nous avons passé la suite de la matinée comme si de rien n'était. Et moi, j'étais très excité. Et je me disais que puisqu'elle ne réagit pas, pourquoi ne pas en profiter ? Peut-être que cela lui faisait plaisir. Le temps passait. Au cours de nos promenades, chaque fois que je pouvais, je lui caressais les fesses, même que des fois, sous prétexte de rester debout l'un contre l'autre à regarder un paysage, je lui caressais pendant un long moment. Un dimanche, pris de fièvre, je me mis à lui caresser le sexe par-dessus son pantalon. Il me regardait faire sans rien dire et bandait. Force de le lui caresser, il se mit à mouiller dans son pantalon. Il était tout surpris. Mince ! Je m'arrêtai et nous avons repris nos vélocipèdes. Je me disais en moi-même que ce que j'avais fait, c'était une chose que je croyais difficile et qu'en réalité, c'était tout simple. Nous ne parlions jamais de cela, mais désormais, sans le lui demander, et sans qu'il fasse un geste, je lui touchais librement. Une fois, pour que ce soit plus facile et propre, il sortit son sexe. J'étais mieux à même la peau. Il ne disait rien et laissait son sexe dans ma main. Et de l'autre main, je lui caressais les fesses. Puis, il me présenta son sexe à ma bouche. J'hésitais et j'essayais. Je le suçais en le marchant avec mes lèvres. Mais ne voulait pas qu'il jouisse dans ma bouche. À chaque promenade, nous faisions ce genre de choses. Nous n'en parlions pas. Il allait derrière un arbre, je le suivais et sans rien dire sortait son sexe. Il aimait cela, faute de fille, c'était sûrement plus excitant pour lui que d'y faire seul. Avant et après, nous ne parlions jamais de cela. Une fois, nous étions entrés dans une grange. Il s'était de lui-même couché sur le foin et s'était défait et m'attendait. Le temps passait ainsi. puis, un jour, il a eu un côté dédaigneux à mon égard. Je sentais que ça n'allait plus. Un dimanche matin, il n'est pas venu. Alors, l'après-midi, je suis allé vers chez lui. Je restais sur le trottoir à attendre. Peut-être que je le verrai. Et oui, la porte de l'allée s'est ouverte et je l'ai vu. Il avait dû me voir de sa fenêtre. Il me fait entrer dans son allée. Sans me parler, il me mena dans le couloir de la cave. Et là, il s'est mis les larmes aux yeux à me dire « J'en ai assez, il faut que tu me laisses tranquille. Je suis allé chez une fille samedi, je n'ai pas vu, je n'ai pas pu, c'est de ta faute. Je te déteste. » Je ne savais pas quoi lui dire. Il s'est mis à me donner des coups de poing, comme un fou. Va-t'en, va-t'en. Espèce de dégueulasse. Là, j'étais furieux. Je lui ai dit, dis donc, on a fait ça ensemble. Et ça te plaisait. Autant qu'à moi. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Nous sommes arrêtés tous les deux et l'on s'est regardé. Malgré la scène, je sentais le désir naître en moi. Je voyais que pour lui aussi c'était la même chose. Nos deux corps, malgré la lutte de nos âmes, étaient attirés et voulaient que l'on s'unisse à notre façon. J'ai tendu la main, il l'a repoussée, j'ai recommencé, je n'ai rien fait, il s'est déculotté. Son corps était à moi, malgré lui. J'ai profité de lui, mais je l'attendais qu'il murmurât quelque chose. Il a joui. Je lui ai éternué son sexe avec mon mouchoir. Il était rouge de fureur. Fumier, fiche-moi le camp. Je suis parti tristement. Durant la semaine, au lycée, je le voyais nerveux, excité. Je sentais que ça n'allait pas. Il me regardait d'un mauvais sourire. Le dimanche matin, il était là. Nous n'avons pas parlé. Il bouillonnait. Thank you. Nous sommes arrêtés. Il s'est mis contre un arbre et d'un air mauvais, il s'est mis à m'insulter. Salaud, fumier, tu plus un homme à cause de toi. Je restais là, sans obliger bouger ni parler. Tu veux encore un salaud. Se déculottait. Je ne vais rien faire. Tiens, vas-y. Et plus doucement. Vas-y. 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 Et j'y suis allé. Ensuite, il m'a insulté. Con, fumier, laisse-moi, va-t'en. Il avait les larmes aux yeux et bouillonnait. Je n'osais pas m'approcher. Fous-moi le camp. Il ramassa une pierre et me la jeta. Je courus et pris mon vélo. Je le quittais. Pas par peur, mais pour le laisser se détendre. Et j'avais honte et ne savais pas comment faire avec lui. Je ne comprenais pas. Il disait oui et se donnait. J'avais l'impression qu'il jouait avec moi, au chat et à la souris. Cela m'énervait. Et j'avais besoin de lui pour assumer mes instincts. Quelque chose me disait que je me servais de lui et que peut-être il faisait mal. Mais je n'y pouvais rien. Il fallait que j'assume mes instincts. Les jours passaient et il était toujours aussi nerveux. Un jour, qu'il n'était pas venu au lycée, le proviseur vint me voir et me dit qu'il voulait me parler. J'allais au parloir.
Entrez.
Là, dans le salon, je trouvais un homme grand, mince, les cheveux épais blancs. Je m'approchai de lui. Il me dit, « Je suis le docteur Gauthier. Je soigne un de vos camarades, Gérard G. » Il a les nerfs très fragiles et il est fatigué. Il est en pleine crise. Je lui ai demandé ce qui se passait. Il m'a tout raconté sur vos relations. « Je vous demande de bien vouloir laisser tranquille Gérard G. » Vous lui faites du mal. Voilà ce que je voulais vous dire. Je restais un long moment sans bouger. J'avais honte, horriblement honte. L'homme s'inclina et sortit de la pièce. Je sortais un peu plus tard. Les oreilles bourdonnantes. J'avais l'impression que tous savaient ce que nous avions fait. Je ne pensais qu'à moi, pas à lui. Les jours passaient et ne revenaient pas au lycée. De toute façon, je ne souhaitais pas le revoir. J'étais furieux contre lui et me disais qu'il était fou pour avoir agi ainsi. Un jour, il est revenu au lycée pour prendre ses affaires. Alors qu'il descendait les livres sous le bras et que je montais, nous nous sommes croisés. Il m'a dit « Salut ». Je lui ai dit « Bonjour ». Puis il m'a dit « Je pars quitter la France. Je vais en Suède retrouver mon oncle. Et peut-être on va me marier. » Mais c'est pas sûr, vu que j'étais triste qu'il parte. Mais c'était sûrement mieux pour lui. Tu pars quand? Je pars dans une semaine. Bon, allez, au revoir. Et il m'a quitté. Je l'ai vu s'éloigner. J'ai compris que je ne le verrais plus. J'ai eu envie de pleurer et ai compris que malgré tout, je l'aimais bien. Je suis resté triste toute la journée et une fois dans mon lit, je me disais que j'avais peut-être été un salaud, que j'avais abusé de quelqu'un, que je m'étais servi de lui comme d'une chose pour assouvir mes désirs, qu'il avait souffert à cause de moi. Je me disais que j'ai peut-être détruit quelque chose en lui. J'avais du remords et honte. Pourquoi avais-je agi comme cela? Moi qui recherchais l'amour pur, j'ai fait ça. Je pleurais parce que j'avais eu une liaison avec une personne sans que le cœur n'ait été touché. Et en même temps, j'étais pris entre le besoin de plaisir. Pour me purifier, je repensais à Didier et voulais retrouver cet amour pur. Pas simple tout ça. Pris entre toutes ces choses, je me mis malgré tout à aimer Didier et en même temps, j'avais mes désirs que je devais assumer et je les assouvissais par la masturbation.
Un simple adieu, un au revoir.
Le temps passait. J'étais encore une fois seul. J'avais dans mon corps Didier. Un jour, je me suis mis à lui écrire une lettre, lui disant que je désirais le voir, que j'aimerais que nous soyons amis. Je postais la lettre avec une pointe de porc, avec l'adresse du lycée. Je n'ai jamais eu de réponse. Comme je grandissais, mes parents me permettaient que je sorte un peu. J'allais seul au concert, CAF-conf et au théâtre. Quelquefois après les cours, je m'attardais dans un salon de thé.
Non, pas du tout. C'est grave ?
Non, au contraire. Déjà que son mari est toujours Dieu sait où. Non, pour une fois, elle est gâtée. On lui rend son fils. Le petit Lorena revient à Lisbonne.
On ne devrait jamais fréquenter les lieux publics.
Était plein d'amour et voulait être aimé. J'aimais toujours et j'avais toujours dans mon corps Didier. Plus tard, je voulais écrire des pièces de théâtre, car j'avais l'impression que cela me rapprochait de Didier. Et puis, j'aimais écrire. La nuit, dans ma chambre, j'écrivais beaucoup. J'écrivais des drames terribles ou des satires sur les gens. Sorte, je me vengeais de la société. Après ma première année d'université, mon père me convoqua dans son bureau. J'y allais, frappais et entrais. Il me fit asseoir. Il me dit, voilà, je t'ai fait venir, c'est pour te dire, c'est que j'ai décidé que tu arrêtes tes études. Mais mon père, non. Je veux que tu arrêtes et c'est tout. Tu es assez trimé comme ça. Tu es en âge pour apprendre le métier de la banque. Mais père, je veux écrire. Non. Ce n'est pas sérieux. Dans une banque, ton avenir est tout tracé. Tu deviendras en montant des échelons directeur. Je présenterai demain matin à mon ami, Monsieur Ponce, qui te trouvera un emploi. Je n'avais rien à dire qu'à obéir. Et je suis devenu malgré moi employé de banque. J'apprenais sur le tas. M'ennuyait ferme. Heureusement que j'avais une vie intérieure forte et que le soir je continuais à écrire. J'écrivais ce que j'aurais aimé vivre. C'était toujours l'histoire d'un beau jeune homme qui avait un ami et il leur arrivait des aventures pour se libérer de ce monde mesquin. C'était aussi de la satire de ce que je voyais. L'art est une chose merveilleuse. Il nous permet de créer un monde comme on le désire. Comme les histoires d'amour, que la vie nous paraisse banale, fade, à côté de celles inventées. Dans ma vie, elles ne sont que médiocrité. Je dois avouer qu'en écrivant ces amours, les amours de la vie, je les trouvais en dessous de tout. Ce n'était qu'échec, humiliation, instinct primaire. Je rêvais de quelque chose de beau, pur. Voilà ce que j'ai vécu. Je m'accuse personne. Cette médiocrité était sûrement plus de mon côté. Les personnes que j'ai aimées, c'est moi qui les ai choisies et forcées à avoir une liaison, si l'on veut, avec moi. Moi, pour eux, je n'existais pas. Si je n'avais pas été à eux, ils ne m'auraient pas vu. Ce qui veut dire que tout était dans ma tête. Il aurait mieux valu que j'aimasse à l'intérieur de moi-même ces personnes. Là, oui, mes amours auraient été belles. Mais non, il fallait que j'extériorise pour posséder l'autre. Le désir amoureux est la chose qui crée le plus d'ennui et abaisse l'homme. Vouloir posséder l'autre, même avec de l'amour, c'est chercher à s'approprier quelque chose qui ne vous appartient pas et ne vous appartiendra jamais. La cause de tous les malheurs des hommes vient de cela et de la possession matérielle. De toute façon, quoi que l'on fasse, l'homme, tout ce qu'il croit posséder en ce monde n'est qu'illusion, car tout ce que l'on possède nous échappe au fur et à mesure de la vie. En amour, l'on s'imagine que l'on fait qu'un avec l'autre, que l'autre vous appartient. Cela est faux. L'on reste un et seul, même dans l'acte d'amour. L'on est lié et l'on ne se lie avec personne et rien. Même notre corps qui est nous ne pouvons pas le dominer, faire en sorte à ce qu'il reste toujours le même. Il se transforme, bouge malgré nous. C'est comme s'il avait sa vie propre avec ses besoins que nous aimerions qu'il n'ait pas. Donc, vive l'art. Vive l'art sur la vie. Ou, qui est la vraie vie. Car c'est toute la liberté. Avec rien, mais surtout avec son cerveau, l'on imagine et vit par sublimation tout ce que l'on veut. Qu'est-ce que la vie à côté ? Chose fade, triste, sans relief, couleur, passion, où se trouve beaucoup de médiocrité. Moi qui menais une vie médiocre, stupide, je l'ai supportée que grâce à l'art, à la création, aux histoires que je m'imaginais et mettais sur papier. Autrement, je me serais donné la mort depuis longtemps. Que l'on sache que mes écrits ont été et sont la seule sève qui m'ait maintenu en vie. Car je n'aurais pas supporté longtemps de vivre au milieu des gens sans intérêt, médiocres. Malheureusement aussi, les écrits ne suffisent pas. Ils ne supportent pas pour supporter la vie. J'étais jeune et j'avais un grand besoin de vivre autre chose que ce que je vivais. Mais comme je n'y arrivais pas, souvent je pensais à la mort. Oui, je sais, on va dire que les jeunes pensent souvent à la mort et c'est plutôt un jeu pour eux. Je ne sais pas. Mais pour moi, ça n'était pas. Chaque soir, je priais Dieu pour me faire mourir. Je prenais toujours des pilules et me disais que le poison serait une bonne chose. Mais je me rendais compte aussi, c'est que ces pilules me rendaient la vie plus supportable. Alors, je ne voulais pas qu'elles soient plus supportables à cause d'un produit. Je voulais la voir telle qu'elle était. J'ai laissé les pilules. Je voulais la mort parce que je ne voulais pas vivre plus tard une vie médiocre. J'avais peur d'être happé par la société. Chaque nuit, je me préparais pour aller me coucher comme si je n'allais pas me réveiller le lendemain. Je rangeais toutes mes affaires, classais mes écrits dans des classeurs avec Dieu su à conserver même après ma mort. Et me couchait. Le lendemain, le réveil était terrible. Je n'avais pas envie de me lever. Je ne voulais rien faire. J'avais le cafard, la gorge serrée. Puis, pour que ma famille me laisse en paix, je me lavais pour aller à mes occupations. Car si j'étais resté couché sans être malade, ou voulais rester au lit seulement comme ça, ça aurait fait toute une histoire. On aurait dit que j'étais un feignant, etc., etc. J'ai vécu un moment sans personne, aucune relation. Il m'arrivait de penser à Didier comme une étoile, une illusion, un amour idéal. Un rêve d'une personne qui ne connaissait ni la vie, ni les êtres. Mais c'était le genre d'amour pur et beau que je souhaitais de toute mon âme. Je recherchais cela dans les autres que j'ai aimés et aimais. Parce que lui était inaccessible.
Un peu d'espoir, et dans mes yeux, sous le ciel noir, la joie se lève. Un peu d'espoir, un peu d'amour.
Christian, j'ai voulu aimer comme Didier, un rêve, alors que lui était en plein dans la vie. C'était sûrement un brave garçon, et si j'avais agi et été autre, nous aurions peut-être été de bons amis. Lui le sentait certainement, mais il voyait que chez moi, c'était trop trouble. Il ne voulait pas de cela. Il voulait être dans la vie et non au-delà. En vivant une amitié en dehors des normes voulues par la société. Si ça a été un échec avec lui, c'était à cause de moi. Mais cette histoire, grâce à Christian, m'a ouvert les yeux et montré qui j'étais. C'est-à-dire un pauvre air qui a des désirs qu'il ne soupçonnait pas hors normes. Voilà ce que cachaient mes bons sentiments. Cette vérité m'a beaucoup fait souffrir et le fait toujours. Mais il vaut mieux marcher les yeux ouverts que fermés. Gérard, lui, était un malade des nerfs et peut-être d'autres choses. J'ai abusé de lui en profitant que, comme tout adolescent, il n'arrivait pas à dominer ses envies sexuelles. Et je lui ai fait sûrement du mal, car il souhaitait sûrement des relations avec des femmes. L'excitation que je lui donnais lui en empêchait. Ce que je lui ai fait devait être très grave, pour qu'un médecin se déplace et vienne me parler. Et ce médecin devait beaucoup aimer Gérard. Pauvre Gérard, à qui j'ai fait du mal, pour assouvir mes désirs. J'étais gauche là aussi, et stupide.
Et dans mes yeux, sous le ciel noir, la joie se lève. Un peu d'espoir, un peu d'amour, un simple adieu, un au revoir, et puis bonsoir.
À mes désirs, j'en avais toujours. Je me soulageais comme je pouvais dans mon lit. Dans la rue, au lycée, il ne se passait pas de jour sans que je rencontrasse un jeune homme, un adolescent que j'avais envie de toucher, embrasser. J'aimais ces visages fins, ces corps minces, ces jambes lisses. J'étais malade de toutes ces beautés que je voyais et que je ne pouvais approcher. Je les suivais du regard et c'était tout. J'avais honte, me croyais épié. Et si j'avais approché un de ces jeunes gens, j'avais peur qu'il me repousse avec dégoût et se jette devant tous des injures. Pour que les gens sachent qui j'étais réellement. Oui, j'étais un pestiféré, quelqu'un que l'on rejette. J'étais pas normal, un fou dangereux qui gangrenait les gens normaux. Je devais cacher qui j'étais. Je ne devais pas assouvir mes besoins. J'étais dans son monde comme un être d'ailleurs qui devait se cacher et cacher ses désirs. Alors, je m'enfonçais dans mes rêves que je mettais par écrit. Là, j'étais libre, libre de vivre ma vie. Oui, libre de vivre ma vie. Voilà des mois que je travaillais dans cette banque Morin-Ponce et que je m'ennuyais beaucoup. Je n'avais personne à qui parler. Tous mes collègues étaient mariés et plus vieux que moi. En sortant de mon travail, je rentrais directement chez moi, ou plutôt chez mes parents. Depuis que je travaillais, la tension s'était un peu détendue. Je me sentais un peu moins surveillé. Ma mère ne me parlait plus de ma fugue et l'on ne me demandait plus où j'allais lorsque je sortais. Mais de cette nouvelle liberté, j'en profitais pas. Cela ne m'intéressait pas de sortir pour aller où, que faire. Alors je préférais m'enfermer chez moi à écrire et lire un peu, car je m'étais remis à lire. Bien sûr, de temps en temps, j'allais au spectacle.
Margaret, écartez-vous, s'il vous plaît.
Par un tel cochet sans mettre plein les poches. C'est le Père Jaurès qui revient de là. Sa fille rayonnante en robe de communion. Les sociétés.
Voir un opéra, concert, une pièce ou autre chose.
Mais nous, c'est pris de la gloire.
Bien sûr, il y avait aussi le cinématographe, des images en noir et blanc qui sautillent et bougent chansons. Malgré le peu d'intérêt de ces scénettes, j'étais fasciné par cela et je me disais que malgré ces histoires, on pouvait en trouver d'autres. Je me disais que si j'avais un appareil, je ferais autre chose que ce qu'ils font. J'étais toujours seul, même pour aller au spectacle. Ma solitude me pesait beaucoup. Et je rêvais toujours d'un ami, même qu'il soit plus. Je le voulais beau, jeune, issu d'une famille riche, intelligent, tout quoi. Beaucoup de jeunes gens que je croisais me faisaient rêver, mais je n'osais pas les aborder. La nuit, dans mon lit, je repensais à eux en me masturbant. Un matin, dans le journal, je trouvais un article qui parlait de Didier à cause d'une pièce qu'il allait interpréter en tournée dans toute la France, sauf à Lyon. Il y avait une photographie de lui. Sans hésiter, comme si j'avais continué à le faire, je pris un ciseau et découpai l'article pour le mettre dans mon portefeuille. Je restais fidèle à mon amour idéal, modèle, et je savais que je ne pourrais jamais le rencontrer. Mes parents s'inquiétaient sur ce que je devenais. C'était souvent ma mère qui parlait. Ils étaient au salon et j'étais dans le couloir. Ma mère disait « Il est bizarre, tu ne trouves pas ?»«
Comment ?»«
Il n'a pas de petit ami, ne parle pas d'avenir. Je me demande ce qu'il fait dans sa chambre. » Il était vrai, c'était que je n'avais pas de fiancée, de jeune fille que je courtisais. Et j'étais en âge. Cela m'ennuyait car je me disais que les gens devaient commencer à se poser des questions et risquaient de trouver le pourquoi. Pour faire taire les ragots à venir, j'aurais bien aimé avoir une jeune fille qui soit belle à la rigueur et qui joue le rôle de ma petite amie. Mais je n'en connaissais aucune et ne pouvais faire connaissance avec aucune. Les jours passaient, la solitude me pesait de plus en plus. J'avais besoin de quelqu'un pour déposer mon affection et satisfaire mes désirs qui devenaient de plus en plus envahissants. Je voyais les jours passer et cela m'énervait. Je me disais que si je n'avais arrivé à rien, ma vie leur a été qu'une chose morte. En rendant à mon travail, je me dis, la première personne que je vois, je lui parle. Non, que non. Je vois et qui me plaise, bien entendu. Je vois arriver devant moi un grand jeune homme dans les 25 ans, mince, les cheveux bruns, courts, tête ronde, charmante. Il est habillé d'un costume gris foncé. Il se dégage en lui une très grande élégance. Il porte en vrac un paquet volumineux de vêtements et a des difficultés à les tenir. Lorsque je le vois, je lui souris, lui aussi, et fait tomber à terre une chemise. Je me penche pour la ramasser et la lui donne. Merci. On peut dire que vous êtes bien chargé, je lui dis. Oh là là, ne m'en parlez pas. Je peux vous aider, si vous voulez. Merci. Je prends quelques vêtements sur le dessus. Et nous sourions. Je lui demande, vous allez où? Là, dans cette boutique Burton, je suis vendeur et ce matin je devais prendre des vêtements de notre grossiste. Voilà, nous y sommes. Il me regarde bien et me dit, vous pouvez me prendre encore ce que j'ai? Je dois ouvrir la porte. Oui, bien sûr. Il n'ouvre pas la porte, me reprend les vêtements. Merci, je sais comment j'aurais fait sans vous. Je lui dis, c'est pas grand chose. Il me dit, si merci, je m'appelle Charles Saint-Martin. Moi c'est Pierre, je travaille à la Banque Morin-Ponce à côté. Il me dit, si vous voulez, pour vous remercier, on peut se voir à midi et manger ensemble. Je souris, j'étais heureux. Oui, je veux bien, il me dit. Bien, on se retrouve ici. Et il entre dans son magasin. Thank you. Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Ginette Jean-Pierre, Mémoire intime, dont c'était la 7e partie. Production, mise en scène, Ginette Jean-Pierre, enregistrement,